Ladies and gentlemen, you heard the Soulful Sound Part 1. Now,
yes, that's the massive original record on the Radio Campus 88.3.
On peut pas parler français, non?
Radio Campus, ça c'est une FM qui pète. Radio Campus 88.3.
Vous aurez à répondre de tout ça vis-à-vis de nos associés américains.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans. Bienvenue dans votre rendez-vous du lundi après-midi. La science infuse. On est ensemble pendant une heure pour parler de culture scientifique, mais aussi de journalisme. Avec moi, deux invités autour du plateau. Béatrice Saulnier. Bonjour, Béatrice.
Bonjour.
Alors toi, tu es chargée de mission culture scientifique à Centre Sciences. Vous êtes habitué à entendre parler de Centre Sciences, chers auditeurs et auditrices, puisque régulièrement, je vous relaie les informations du calendrier de Centre Sciences. Et une autre voix qui est assez connue. Alors, je ne sais pas si on t'a déjà beaucoup entendu parler sur Radio Campus. Élodie Cerquera, salut.
Salut.
Alors toi, tu es présidente du Club de la Presse.
Oui.
En tout cas, nous, on te connaît bien à Radio Campus parce qu'on a bien l'occasion, très régulièrement, en fait, de travailler ensemble. Et ça va être, par contre, une des premières fois que je crois vous allez travailler ensemble. En tout cas, il y a un rapprochement entre vos deux structures, Centre Sciences et le Club de la Presse, à l'occasion d'un événement qu'on connaît bien également à l'antenne des Radio Campus, c'est les Assises internationales du journalisme. Et vous allez proposer prochainement, à la fin de ce mois de mars, le 25 mars prochain, à Orléans, hein, ça ne sera pas surtout là où se déroulent habituellement les Assises internationales du journalisme, mais ça sera à Orléans dans les locaux de Centre Sciences, une rencontre autour de la question du journalisme et de la question du traitement journalistique des sciences et de la question des sciences au travers du journalisme, puisque le thème de cette année, hein, des Assises du journalisme, c'est enquête de vérité, et vous allez notamment recevoir des scientifiques, des médias, des journalistes pour parler de cette question. On va y revenir dans un instant. Alors peut-être rapidement, j'aimerais qu'on puisse parler un peu de Centre Sciences et du Club de la Presse. Ce que vous faites le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites le reste de l'année quand vous n'organisez pas cette rencontre qui a lieu prochainement, Béatrice, Centre Sciences?
Alors Centre Sciences, c'est une association, le Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la région Centre-Val-de-Loire. On est ce qu'on appelle un centre de ressources présent sur l'ensemble du territoire régional. Et on s'appuie sur nos partenaires en région pour promouvoir les sciences et techniques auprès du grand public. On a un certain nombre d'événements qui sont proposés tout au long de l'année. L'événement le plus important étant la fête de la science, qui est une fête nationale, fête de la science qui a lieu au mois d'octobre. Et puis le reste de l'année, on est à la fois concepteur d'outils pédagogiques sur les sciences pour mettre en avant la recherche qui se fait dans les laboratoires de recherche en région Centre-Val de Loire. Donc on a un pôle ingénierie qui crée des outils d'exposition et qu'on diffuse auprès de nos partenaires en région. Et puis on a un certain nombre d'événements à destination des scolaires, du grand public, mais également des professionnels, des acteurs de culture scientifique présents en région. Alors quand on parle d'acteurs, on parle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, hein, qui sont présents sur le territoire, mais également des bibliothèques, des musées, des collectivités, partenaires qui sont parfois indépendants. Et le Club de la Presse, du coup, fait partie maintenant de nos partenaires avec qui on monte des projets de culture scientifique.
Voilà, le Centre Sciences qui est aussi un réseau, hein, de structures acteurs et actrices de la médiation scientifique en région. Le Club de la Presse, c'est aussi un réseau, mais pas de structure, c'est un réseau de personnes, Élodie.
Oui, tout à fait. Alors,
de journalistes.
Voilà, exactement. Nous, on est une association qui réunit les professionnels de l'information et de la communication, ainsi que les professionnels de l'éducation aux médias et à l'information, puisqu'on structure un réseau régional des acteurs de l'EMI. Et puis, le Club de la presse. Voilà, il a 37 ans. Hein. Moi, j'en suis présidente que depuis quelques années. Je fais mon petit passage et effectivement, il a vocation de participer à la mise en place, comme là, de tables rondes, de débats, de conférences, mais pas que. On est partenaire des Assises. Hein. On est un partenaire historique depuis que les Assises sont à Tours. Et évidemment, on invite tous nos adhérents et les non-adhérents à venir nous rejoindre. Nous avons un stand et on vous accueillera avec plaisir. Et l'idée aussi du club, c'est d'élargir son réseau et d'avoir d'autres partenaires. Et comme l'a dit Béatrice, cette année, ça faisait un moment qu'on en parlait, de faire quelque chose autour des sciences, parce qu'en journalisme, évidemment, on traite des sciences. Et c'est un vrai sujet qu'on aborde malheureusement pas assez souvent. Les sciences, elles sont dans la vie, tous les jours. Hein. On fait des maths quand on fait une recette de cuisine. C'est quelque chose qu'on consomme même parfois sans s'en rendre compte. Et puis parfois, on est vraiment dans des sujets plus tendancieux, comme ça l'a été pour le Covid. Et on a bien vu qu'un point de vue traitement journalistique, on n'a pas toujours su être à la hauteur. Donc voilà, on a vocation aussi de se rencontrer pour que ces deux professions se parlent.
Alors ça fait quelques temps que vous en discutez. Alors qui a fait le premier appel du pied? C'est le Club de la Presse, c'est Centre Sciences ou est-ce que c'est les Assises du journalisme?
C'est Béatrice et moi parce qu'on est toutes les deux à Orléans. On avait eu l'occasion de collaborer il y a 2-3 ans je crois sur une exposition puisque je fais de la médiation scientifique moi par ailleurs. Et puis très vite on a compris qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et donc on a réfléchi un petit peu parce que c'est pas toujours évident non plus d'avoir et le temps et le bon sujet à présenter sur la science et le journalisme parce que des fois c'est pas toujours... accueilli, tout simplement, et puis parce que ça s'était pas présenté, mais c'est vrai qu'on en parlait toutes les deux et qu'on avait des choses à faire ensemble. Et là, c'était l'occasion ou jamais, puisque cette 19e édition des Assises en quête de vérité se posait la question de la science et la vérité. La vérité de la science, la vérité journalistique, et comment on raconte la science quand on est un journaliste et comment on explique la science à un journaliste.
Alors comment on en est arrivé là? Quel est l'enjeu justement? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on commence à se poser la question de la vérité de la science alors qu'on pensait que la science était censée donner du vrai? Est-ce que c'est lié peut-être aux enjeux qu'on traverse actuellement en tant que société? On entend souvent parler de ce concept de post-vérité. On serait dans une société où on pourrait affirmer, comme certains gouvernements aux États-Unis affirment devant une caméra qu'il s'est passé ceci alors qu'il s'est passé complètement tout autre chose. La vérité, elle est malmenée en ce moment?
La vérité existe-t-elle?
Pour
qu'elle soit malmenée, il faudrait déjà qu'elle soit une réalité.
Vous avez 3 heures.
Voilà. Parle-t-on de vérité ou de réalité? En fait, on n'a pas à vocation cette question de la vérité. D'ailleurs, on l'a traitée à Tours dans une autre table ronde en off des Assises aussi, sur justement cette vérité journalistique. Et d'un point de vue philosophique, on avait le plaisir d'accueillir un philosophe avec nous pour nous l'expliquer. Et l'idée, ce n'est pas tant d'être dans la vérité, c'est à un instant T. En plus, la vérité n'est valable qu'à un instant T. C'est une construction d'un savoir. Et le savoir, il évolue, et notamment en sciences. Sauf que la temporalité des sciences, et ça, Béatrice va l'expliquer mieux que moi, n'est pas celle des journalistes. Et ce qui a été le point d'orgue, clairement, c'est le Covid. Ça nous a montré à quel point on était parfois très mauvais dans le traitement journalistique de la science, à quel point les scientifiques ne savaient pas toujours non plus facilement communiquer, et à quel point aussi c'est l'occasion de beaucoup de désinformation.
Béatrice.
Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que dit Élodie. Je l'ai également sollicité après notre exposition aussi pour former les scientifiques au media training. Et l'idée, c'était que les scientifiques comprennent comment les journalistes en fait travaillent et les journalistes de comprendre comment la science fonctionne, d'arriver à se comprendre pour pouvoir faciliter, je dirais, la communication par les journalistes de ce qui se fait en science. On parle de temporalité. Les scientifiques ont pris conscience, notamment au Covid, mais même un peu avant. Eux, ils font un travail, mais ils ne sont pas forcément formés à communiquer. Et pour autant, il y a une réelle attente, en fait, du grand public. Et je pense que c'est important, à travers nos événements, nous, de permettre aux scientifiques d'expliquer la science auprès du grand public et de permettre au grand public d'avoir les clés de compréhension de la science. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin des journalistes, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément donner une vérité ou un fait scientifique avéré, ça on l'a vu, c'est aussi d'expliquer un peu ce cheminement que peut avoir un scientifique dans ses recherches. Ça prend du temps, ça fait aussi partie, enfin il y a des questions, et je pense que c'est important effectivement de laisser le temps et de permettre aux journalistes de comprendre cette temporalité de la recherche. Quand on parle de transition écologique ou autre, ou d'adaptation des forêts, par exemple, au changement climatique, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Voilà. Et le journaliste peut avoir besoin, je dirais, de réponses immédiates, comment ça va se passer dans un an. Alors que le scientifique vous dira, mais c'est dans 10 ans, nous on travaille sur 10 ans, sur 20 ans ou sur beaucoup plus. Donc cette temporalité, cet échange, elle est importante. Et c'est de savoir comment le scientifique et le journaliste vont se comprendre, en fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes.
On garde peut-être pour plus tard cette question justement de la temporalité. Hein. Je pense qu'on peut en faire toute une partie, une grande partie de la discussion. Moi, je voulais revenir sur ça. Alors, journaliste scientifique, ce n'est pas le même métier. Pourtant, dans la branche de la science et notamment des structures comme Centre Sciences, on parle de médiation. Il y a des médiateurs, des médiatrices scientifiques qui sont là pour justement transmettre l'information. Est-ce que ces personnes-là ne se rapprochent-elles pas finalement un peu plus justement du journaliste ?
Non, moi je pense que c'est pas le même métier.
Quelle va être la différence entre
Nous, on essaye de rendre accessible un sujet scientifique à travers des événements, à travers une exposition, à travers des outils de médiation. Le journaliste, il doit rendre compte régulièrement, spontanément, de l'actualité scientifique ou des événements et de l'expliquer. Et il existe des formations propres journalisme scientifique. Je pense qu'il y en a très peu, malheureusement. Le médiateur, c'est un autre métier. Souvent, c'est quelqu'un qui a fait des sciences et qui essaye de rendre accessible, mais c'est différent du travail de journalistique qui peut prendre du temps aussi dans l'investigation pour expliquer les choses.
En fait, le médiateur scientifique, c'est un communicant. Et informer n'est pas communiquer. Donc, dès lors qu'on est médiateur scientifique, c'est-à-dire qu'on va porter une information, ou en tout cas une communication, et on va la porter à la connaissance du grand public. Donc, c'est là qu'intervient la vulgarisation, c'est encadré par les scientifiques, probablement que la parole est vérifiée avant d'être portée, etc. Un journaliste, c'est pas ça son métier. Son métier, c'est d'aller collecter de l'info, de l'encoder et d'en faire une information. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, quand un journaliste va traiter une info à portée scientifique, il va avoir un scientifique, mais pas que. En fonction du sujet, si on parlait tout à l'heure du climat, par exemple, je ne sais pas, je traite une tempête, j'ai envie de savoir comment le phénomène s'est produit, et là, ils me font un regard scientifique. Et puis, si dans le même article, je parle à la fois du phénomène scientifique, des conséquences pour les assurances et de ce que l'État peut mettre en place pour indemniser les gens, là, on est sur... voilà. Donc, je collecte de l'info, je l'encode et j'en fais une information, une actualité. Ce n'est pas du tout le même métier. Là où ça pêche, c'est que nous, les journalistes généralistes, vont ponctuellement se saisir de ces sujets-là, donc potentiellement n'ont pas les réseaux, n'ont pas la démarche scientifique, donc potentiellement vont maltraiter l'information, ou alors de façon partielle ou imprécise, là où un journaliste scientifique, souvent, a déjà une formation scientifique, et il fait essentiellement de l'information scientifique, avec des sujets qu'il maîtrise. Et donc, il a le réseau des scientifiques, il a une connaissance lui-même scientifique qui lui permet d'aborder les sujets avec d'autres angles. Voilà, c'est une spécialisation, en fait. Et on l'a vu, et tout à l'heure j'en ai parlé, et je pense que c'est très important, c'est que derrière ça, il y a un enjeu démocratique qui est très fort, c'est la désinformation. Mais pas forcément parce qu'elle serait volontaire. Les journalistes n'ont pas vocation de désinformer, mon Dieu merci. Simplement parce que quand on a une maîtrise partielle d'un sujet, ou alors qu'on n'a pas le bon interlocuteur, qu'on est dans l'actualité chaude et qu'il nous faut des réponses rapidement, souvent on va trouver un interlocuteur facile à contacter, ce n'est pas toujours le meilleur. On peut possiblement, dans la précipitation, mal comprendre son propos. Et en même temps, on l'a vu pour le Covid, le grand public avait besoin de réponses, des réponses qu'on ne pouvait pas donner de façon immédiate, si on revient à la temporalité. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se tourner vers des gens qui donnent des pseudo-réponses. Et c'est comme ça qu'on a vu des théories du complot émerger à ce moment-là, parce que dans l'anxiété générale que ça avait créée, on n'a pas compris, mais tout simplement parce qu'on manque d'instruction, d'éducation à ce niveau-là.
C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à l'heure, Béatrice, tu disais que le scientifique est là pour donner quelque part une sorte de méthodologie. Moi, j'ai eu cette image dans la tête qu'aujourd'hui, en termes d'information, on cherche des plats tout préparés. Il n'y a plus qu'à le mettre au micro-ondes. Alors que finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas de donner justement une réponse, une vérité. C'est quelque part de dire, bah, y a des poivrons, il y a des tomates, il y a un couteau et il y a une planche à découper, quoi.
Oui, ça souvent, les scientifiques aiment à le rappeler lors d'interventions. Ils prennent toujours des gants quand ils ont des questions, même du grand public. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain ou dans 10 ans? Ou est-ce que vous pensez que quand on est malade, c'est dû à l'alimentation ou à l'environnement? Et le scientifique va toujours prendre du temps pour répondre en disant « Écoutez, moi, je ne suis pas spécialiste dans tout. Par contre, ça, je sais que pour tel sujet, voilà mon expertise. Mais attention à ne pas faire de conclusions hâtives, en fait, sur certains sujets. C'est vraiment de reprendre le temps de dire au public attention, prenons le temps, en fait, parce que dans la science il y a eu des erreurs également, mais c'est prenons le temps d'étudier et de s'appuyer, en fait, sur des experts. Et peut-être que le journaliste, à un moment donné, par rapport à ce que disait Élodie, pour traiter l'information, il peut avoir besoin de plusieurs experts. Tout dépend de l'entrée, de l'accroche, en fait, hein, qu'il souhaite mener. Mais c'est donner les clés aussi de compréhension, les clés d'information, où est-ce qu'on peut trouver l'information accessible, qui est validée par le scientifique. Et je pense que l'enjeu de l'éducation média et l'information, elle est plus que nécessaire pour les jeunes, mais aussi beaucoup pour les adultes. Voilà.
Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Je parle sous ton contrôle, hein, Béatrice, parce que tu es plus sur la partie scientifique que je ne le suis. Lorsque les sciences, en fait, l'avènement des sciences, ça ne date pas d'hier, effectivement, mais quand on a découvert les sciences, donc il y a plusieurs siècles de ça, on touchait à l'explication de beaucoup de choses, de beaucoup de phénomènes, et donc vers une certaine vérité des choses. Voilà, là où avant, on était plutôt dans des croyances. La science, c'est l'inverse des croyances. Donc, on a bâti toutes nos civilisations sur le savoir, avec cette dimension un peu universelle qu'il peut avoir. Alors, effectivement, il y a des théories qu'on ne renversera jamais, celles de la relativité et autres. Et en même temps, on attend du scientifique que tous les jours, il nous trouve une solution à un problème. Parce que c'est le détenteur du savoir. Un peu comme ton médecin, quoi. Tu vas chez le docteur, j'ai ça, faut me guérir. Comme s'il y avait une obligation de résultat. Ça, c'est, je pense, hein, alors j'extrapole peut-être, hein, je ne suis pas experte suffisamment sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Donc, on attend, et on l'a vu vraiment au Covid, on attendait ces réponses. C'était très pressant. En même temps, vous perdez des proches dans une pandémie, vous êtes dans un stress émotionnel épouvantable. On a besoin de réponses. Et donc, on attend la science qu'elle nous les donne, parce que c'est la science, la vérité. Il y a ce discours-là. Et puis, bah, les journalistes qui ne sont pas formés aux sciences, bah, c'est des citoyens qui ont aussi peut-être ce fantasme et qui, lorsqu'ils se lancent dans une interview, attendent que les réponses, que les questions qu'ils posent soient il les réponses immédiates. Sauf que là, vous mettez très mal le scientifique qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, parce que le scientifique, lui, il a complètement conscience que la vérité, elle n'existe pas, que le doute nourrit son travail et que tous les jours, plus il se trompe et plus il avance. Et je pense qu'en fait, il y a un problème de pédagogie. Voilà. Ce sont deux mondes qui ne se sont pas parlé pendant des lustres. Aujourd'hui, ils essayent de se rencontrer, mais finalement, parfois, percolent plus qu'ils ne se parlent, parce que le scientifique pensait avoir été clair, et puis finalement, trouve que ce qu'il y a dans le média est mal interprété, que le journaliste pensait que le scientifique allait faire un effort de vulgarisation, puis finalement, il ne s'est pas emparé de son discours. Enfin, voilà. Des incompréhensions comme ça qui font qu'il y a des imprécisions. Parce que ce sont deux mondes qui n'ont pas encore appris à bien se parler. Alors, il y a des scientifiques qui sont extrêmement doués dans la médiation, dans la vulgarisation, qui sont très à l'aise dans la communication, d'autres beaucoup moins. Et puis, c'est pareil, de quelle science on parle? Il y a des sujets scientifiques qu'il est plus facile à aborder que d'autres.
C'est la première fois que... c'est la première fois que Centre Science et le Club de la Presse vont travailler ensemble sur ce genre de projet. Est-ce qu'à travers la France, il y a d'autres rencontres qui se font avec d'autres CSTI, d'autres clubs de la presse, ou c'est quelque chose qui est assez inédit finalement?
Alors cet événement-là du 25 mars, il s'inscrit dans un événement national qui est porté par Universcience. C'est la structure qui réunit le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences, qui s'appelle le Printemps de l'Esprit Critique, qui a lieu donc au printemps. Et l'idée, c'est un appel à initiative auprès d'un ensemble de partenaires, une bibliothèque, une collectivité, et donc les CCSTI comme nous, pour organiser des événements autour de l'esprit critique. Donc là, c'est vrai que c'était un événement qui était porté par le Club de la Presse et par Centre Sciences en amont, en fait, des Assises nationales du journalisme, et qui s'inscrit également dans cet événement national du printemps de l'esprit critique, parce qu'on sent bien que c'est un sujet que l'on doit s'emparer dans des actions science-société très importantes à l'heure de la désinformation et de tout ce qu'on peut trouver, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, voire des fois dans les autres émissions. Et que ça nous paraît vraiment très important. Et à l'image aussi de l'ensemble des partenaires qui sont présents en région, que ce soit des universités, des musées, des collectivités, il y a une volonté d'aller vers l'éducation aux médias et de l'information et du développement d'ateliers d'esprit critique. Notamment, on le voit aussi au MOB, hein, sur Orléans, dans les universités, de porter en fait des actions autour de ces thématiques de l'esprit critique. Ouais.
Restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans, dans la Science Infuse. On est avec Élodie Cerquera du Club de la Presse et Béatrice Saulnier de Centre Sciences. On parle de cet événement qui aura lieu le 25 mars prochain à Orléans, à Centre Sciences, rencontre entre science et journaliste. On écoute pour l'heure un titre de Roberto Cigogna, Luna in Pesci, et on se retrouve juste après.
Passa il tempo e tu non rispondi, non ci riesci. Stai contando tutti gli spazi tra i silenzi. Basta un segno, fatti avanti, chiama tu. Che non c'ho credito, chiama tu.
Roberto Sigonia, Luna in Pesci, la lune en poisson, on parle d'astrologie, c'est justement une croyance, la croyance c'est autre chose que la science, c'est autre chose que le journalisme, en tout cas nous on essaie de trouver, on est en quête de vérité, la vérité scientifique suffit-elle à convaincre, c'est une des questions que vous allez vous poser le 25 mars prochain, on est toujours avec Elodie Cerquera qui est du Club de la Presse et Béatrice Saulnier à Centre Sciences, vous allez justement faire cette rencontre entre des journalistes et des scientifiques. Alors, la vérité scientifique suffit-elle à convaincre ? Peut-on parler de vérité scientifique universelle ? Comment la science gère-t-elle l'incertitude sans perdre en crédibilité ? Ce sont les questions que vous allez poser à vos différents invités. Alors, justement, qui avez-vous choisi pour en parler ?
Alors oui, effectivement, on va avoir une belle table ronde et de beaux invités. Donc on va rassembler autour d'une même table deux scientifiques et deux journalistes. Donc les scientifiques seront Mathieu Réfrégier, qui est directeur du CBM du CNRS d'Orléans, Marion Vineau-Gosselin, qui est directrice adjointe de l'unité de recherche INRAE-EFNO, les écosystèmes forestiers de Nogent-sur-Vernisson, donc des scientifiques locaux, hein, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'on a un bassin scientifique assez remarquable en région Centre-Val de Loire. Et côté journaliste, on aura le plaisir d'accueillir Morgane Guillet, qui est journaliste scientifique chez Brief Science. Brief Science, c'est le média Brief Me, un média pure player en ligne via une application qui a un média dédié aux sciences. Donc, elle est de formation scientifique et donc traite les sujets scientifiques, mais plutôt société, agriculture, environnement. Voilà, on n'est pas forcément sur des sciences fondamentales avec des sujets extrêmement pointus. Elle est sur les sujets sociétaux. Et on accueillera aussi avec plaisir Garo Kevorkian, qui est journaliste reporter à France 3 Centre-Val de Loire. Ça nous semblait pertinent d'inviter des journalistes qui n'exercent pas le métier de la même manière. Parce que ce n'est pas pareil d'être sur du format magazine avec une spécialité et notamment dans sa formation déjà initiale que d'être en PQR, donc en presse quotidienne régionale, et de surcroît à la télé. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que Morgane est presse écrite, alors que Garo, c'est la télé. Et la télé, il y a de l'image. Et c'est dur aussi de faire de l'image rapidement sur des sujets scientifiques.
Alors, qu'est-ce que vous espérez trouver ? Est-ce que vous venez déjà vous-même en tant qu'organisatrice avec des questions dont vous aimeriez trouver certains éléments de réponse ? Peut-être pas des réponses toutes faites. On n'est pas sur un plat cuisiné qui n'a plus qu'à réchauffer au micro-ondes. On cherche des éléments de réponse. Qu'est-ce que vous espérez voir émerger ?
Je pense qu'il faut déjà bien apprendre à se connaître. Et Elodie l'a dit un peu en introduction. C'est-à-dire qu'on a deux journalistes qui travaillent sur un média différent, écrit et puis l'image. Donc comprendre un petit peu leur pratique et leur quotidien, surtout quand il s'agit de gérer une actualité quotidienne. Et puis des scientifiques par rapport déjà à leur thématique de recherche qui est différente. Et puis sur leur compréhension à la fois du monde journalistique et le recul qu'ils ont sur leur travail scientifique et comment ils le partagent auprès du grand public, mais auprès des scientifiques, auprès des journalistes quand ils sont interviewés. Donc je pense qu'il y aura déjà cette approche de compréhension des uns et des autres sur leurs différents quotidiens, que ce soit un scientifique ou un journaliste.
Je me permets de taquiner un petit peu, Erwan.
Vas-y.
Parce que, en fait, ça soulève parfaitement notre problématique aujourd'hui. C'est que tu me demandes, est-ce que tu vas chercher des questions auxquelles tu espères avoir des réponses ? C'est exactement ça, le problème. C'est, je pose une question, je veux ma réponse. Et toi, journaliste, tu vas me le donner. Et toi, scientifique, tu vas me le donner. Voilà, c'est ça ce réflexe aujourd'hui qu'on a. On a une question, on veut une réponse. Et si on n'est pas capable de donner une réponse, ça veut dire qu'on est incompétent.
Et donc, moi, je dis, apprenons à s'écouter et à échanger.
Donc, rien que dans ta question, mais en fait, on le fait tous. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'est retrouvés avec des toutologues sur les plateaux.
Oui.
Des gens qui savent tout, de rien. Des experts. Ah là là, on a un expert, parce qu'enfin, on va avoir une réponse. Alors, les tables rondes telles que nous les abordons, notamment au Club de la Presse, n'ont pas du tout à vocation de donner des réponses tranchées. Elles ne sont là que pour soulever des débats et des questionnements. Et peut-être repartirons-nous peut-être avec plus de questions que de réponses, mais au moins avec des échanges, avec des ouvertures d'esprit. Je pense que la quête de la vérité est une quête vaine. En revanche, la quête de l'échange, elle vaut le coup. Et l'idée là, c'est de donner l'occasion à des mondes qui ne se fréquentent pas suffisamment de se voir. J'espère qu'on aura vraiment du monde qui viendra, parce que c'est une belle table ronde qui est ouverte à tous. Donc aux adhérents du Club de la Presse, évidemment, aux partenaires et au réseau de Centre Sciences, évidemment, mais au grand public aussi. Parce qu'on espère que le public participera aussi à ce débat pour qu'on se dise les choses. En fait, l'idée, c'est surtout ça. On n'aura pas forcément de réponse à toutes les questions, mais on les aura soulevées. Et puis, c'est comme en science. Les réponses, elles viennent au fur et à mesure du temps et des expérimentations.
C'est apprendre à s'écouter et puis faire mûrir, je dirais, une réflexion. Voilà. Nous, quand on conçoit des expositions, qu'elles soient une exposition panneau, interactive ou autre, depuis toutes ces années à Centre Sciences, je dis toujours des fois à des enseignants qui cherchent des réponses aussi pour leurs élèves, je dis écoutez, moi, l'objectif, quand j'installe une exposition, qu'il y a du personnel, de la femme de ménage au technicien ou après le grand public, quand ils ressortent avec des questions qu'on a suscité un peu d'émerveillement ou d'intérêt, ben moi je trouve qu'on a déjà réussi en fait ça c'est la réussite. Répondre à toutes les questions, chacun va s'emparer ou pas des contenus, ben là c'est un peu la même chose en fait, chacun va s'emparer ou pas des questionnements, des contenus en fonction peut-être de leur émotion du moment, quand ils viendront, de la journée qu'ils ont passée, peu importe, mais d'avoir des temps de rencontre en présentiel et ça je pense que c'est important.
De toute façon, en fonction de nos biais cognitifs, on entendra bien ce qu'on veut.
Oui. C'est très bien, c'est à juste titre ce que tu soulèves, la question peut-être qu'elle se mord elle-même la queue. Moi, ce que j'essaie toujours de chercher, c'est de la surprise, l'inattendu. Quand même dans ma démarche, quand je fais une interview avec vous deux en plateau, c'est toujours, j'ai une idée de ce qui va se passer. J'espère peut-être avoir ça comme information, j'espère avoir peut-être ça, etc. Il y a toujours un moment dans l'interview où il y a un cadeau. Il y a quelque chose d'inattendu que tu n'avais pas imaginé que ça arriverait. Et c'est en train d'arriver, tu vois. Et c'est vrai que c'est une question qui est difficile en fait à poser. Qu'est-ce que tu espères avoir en fait comme surprise lors de cette... En fait, il faut venir le 25 mars à Centre Sciences, bien évidemment.
Oui, et puis je pense que ça rejoint quand même le sujet, c'est-à-dire que un journaliste, alors peut-être que je me trompe, Élodie pourra le dire, mais souvent il est peut-être envoyé, notamment quand il faut traiter l'actualité, sur un sujet où il attend des réponses pour les pouvoir communiquer au grand public, c'est aussi donner ce réflexe de dire non mais c'est pas forcément des réponses, c'est une vérité qu'on veut donner, c'est un cheminement de pensée et de réflexion plus qu'un sujet, parce que je veux dire, à l'heure d'Internet, on a accès à énormément d'informations, de connaissances et de plateformes pour trouver les informations. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir écouter ou lire l'interview qui sera réalisée par un journaliste ? Et je pense que le journaliste, il est là aussi pour créer à la fois de l'intérêt et peut-être de l'émotion, du rêve, mais... La vérité, je ne sais pas. Ça va être aussi... je pense qu'on va l'aborder. Je ne sais pas de quelle façon au cours de cette soirée. Ouais. Mais c'est aussi de changer nos rapports à l'information. Parce qu'on veut effectivement scroller assez vite et avoir des informations assez rapides. C'est générationnel. Mais prenons le temps, en fait, de s'écouter aussi et d'échanger.
Peut-être que je peux poser la question différemment. Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir, vous ? Aujourd'hui, c'est quoi vos questionnements que vous aimeriez confronter, même s'il n'y a pas forcément de combat, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez justement mettre sur la table comme questionnement, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, mais encore une fois, on est déjà dans un certain biais de confirmation. Vous aimeriez en sortir grandi, changer comment, dans quel sens ? Vous avez besoin de quoi en ce moment ?
Alors, moi, je suis certaine qu'après cet événement, je vais être surprise par la réponse. Il y a d'autres questions qui vont arriver. Je sais que je vais passer un bon moment. Et déjà, je trouve que c'est pas mal, quoi. Voilà.
Ce sera forcément un bon moment, déjà, parce que c'est nous qui l'organisons.
Il faut le dire.
Soyons clairs. Bon. Parce qu'on a des super invités, parce que le sujet est très intéressant et que dès lors qu'on se parle dans un environnement sécur et respectueux, avec des sujets intelligents, en général, on n'est pas trop déçus. Voilà. Avec des gens sympas, parce qu'ils sont hyper sympas. Une fois de plus, je ne vais pas chercher forcément des réponses, ça n'aurait pas de sens, et je ne vais pas dire à quoi je m'attends, je n'en ai pas envie.
Ouais.
Déjà parce que de nature, je suis plutôt spontanée et que je n'aime pas trop savoir ce qui m'attend demain.
Ouais. Et puis quelle posture tu adoptes du coup ?
Ben, j'ai un angle,
ouais.
Mais après, moi, dès lors que je donne la parole, elle ne m'appartient plus. Donc, comme tu fais avec nous. Donc tu n'as pas le contrôle, je ne l'aurai pas plus, ouais. Et j'espère ne pas l'avoir, certainement pas, et au contraire c'est là que naît la magie des mots et de l'échange, donc au contraire, et c'est pour ça que c'est toujours très souvent, comme tu dis, des beaux cadeaux, parce que les gens à un moment donné vont nous raconter des choses qu'on ne peut pas savoir, parce que si on les savait ce serait un peu ennuyeux, donc on va découvrir des choses. Non, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est pas tant d'avoir des questions tranchées, des réponses pardon tranchées à certaines questions, c'est surtout si je leur en poserais une, ce serait « Mais pourquoi vous ne vous parlez pas ? Pourquoi on en est arrivé là ? Dans la société de l'immédiateté, de la super connexion, pourquoi on a plus de gens qui parlent des sciences sans y connaître rien sur TikTok, alors qu'on a ce berceau scientifique extrêmement riche ? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qu'est-ce qui déconne ? Voilà. Donc, on se dit les choses. Et quelles seront les attentes aussi du grand public aussi, qui auront des questions, parce qu'ils ont des attentes. Et nous, journalistes, à quel moment on va enfin se remettre en question aussi ? Non, parce que, en termes de pratique journalistique, on n'est pas bon. Parce que cette immédiateté dont on a parlé tout à l'heure, alors autant les scientifiques sont sur le temps long que nous, plus il est court, plus on semble faire du bon boulot. Je suis désolée, ce n'est pas le cas. Les effectifs sont réduits, les modèles économiques des médias sont réduits à peau de chagrin. Donc ça veut dire très peu de moyens, faire vite. Et avec de moins en moins de ressources humaines et matérielles, à votre avis, ça donne quoi en termes de traitement de l'information ? C'est pas brillant. Et en même temps, céder à cette commande de l'urgence et de l'immédiateté, c'est nourrir un système qui est complètement en désaccord avec notre déontologie et notre éthique. Mais tout ça, c'est l'effet réseaux sociaux, c'est l'effet du numérique qui nous a dépassés, l'effet de l'audience. Dès lors qu'un un modèle économique s'effondre, la captation de l'attention devient le leitmotiv de tout le monde. Donc on peut s'adonner à des pratiques qui ne sont pas toujours très respectables, juste pour avoir du contenu. Déjà ce mot, je ne peux pas, quoi. En journalisme, on ne fait pas du contenu, on fait de l'information. Voilà, ça c'est ce qui fait qu'on a eu des dérives et qu'on a des dérives très souvent sur certains dossiers qui sont particulièrement maltraités. Donc voilà, l'idée c'est pas d'avoir une réponse, c'est on se remet en question, qu'est-ce qu'on se dit ce soir et qu'est-ce qu'on peut en tirer surtout de ce débat. C'est plus intéressant que d'avoir une réponse quelconque.
Oui, il faut que ça nous nourrisse aussi à la fois pour nos actions futures, pour les actions que les journalistes mènent, en tout cas dans le domaine de l'EMI. Ça, c'est très important parce que nous, on a connu Internet, enfin pour ma part, assez tardivement, l'usage des réseaux sociaux. Donc moi, le moyen que j'avais pour m'informer, il est différent que les générations actuelles des plus jeunes. Et ça, il faut que nous, en tant qu'organisateurs d'événements, on prenne en compte en fait que la société, elle change et elle change vite. Donc il faut aussi qu'on comprenne comment les uns les autres, on fonctionne et comment l'information qui soit la plus juste possible, enfin où les gens ont un domaine d'expertise, comment effectivement rendre compte de cette expertise auprès des publics qui ont des pratiques différentes. Alors pas que les jeunes, hein, il y a aussi beaucoup de gens qui ne pratiquent plus la même façon de s'informer. Et je pense que c'est important que tous les domaines, toutes les sciences en fait, hein, sciences humaines et sociales jusqu'aux sciences dures, prennent conscience en fait de la manière dont les gens s'informent. Et même si c'est rendu maintenant obligatoire dans les universités, mais qu'ils ont, ils ont aussi une responsabilité. Les scientifiques, c'est ce qu'on leur dit. Vous faites de la recherche, vous faites de la science. Mais si vous voulez qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers les sciences, si vous voulez que la société en fait aille dans le sens de ce que vous faites, de votre recherche, qu'elle soit aussi partagée, expliquée pour que, je dirais, les politiques et les décideurs s'emparent aussi de décisions pertinentes. Enfin, en tout cas, pour ma part, qu'elle soit plus juste. Mais seule la société pourra appuyer ces décisions politiques, je pense. Donc, il y a un enjeu qui est sociétal, qui est énorme. Alors, on ne va pas tout résoudre, hein, le 25 mars, mais ça fait partie aussi des enjeux de société.
Tu souhaitais rebondir,
Elodie ? Je voudrais très rapidement sur l'éducation aux médias et à l'information, parce qu'effectivement, tu pointes quelque chose de très important du doigt. Donc, en plus, je suis journaliste, mais je suis aussi formatrice en éducation aux médias et à l'information. J'y consacre presque la moitié de mon temps parfois, souvent, et ce depuis 6 ans. En 6 ans, j'ai eu un prof de maths et un prof de SVT pour faire de l'EMI. C'est-à-dire que c'est vraiment le reflet de ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand je lance des projets dans les lycées ou les collèges, donc des projets qui sont souvent longs, hein, sur des années scolaires complètes, où je sollicite tous les enseignants, ceux qui répondent, prof d'histoire géo, prof doc, prof de français, un prof de SVT, des fois qui s'est perdu dans le couloir. Non, j'exagère, il y en a qui sont très intéressés, mais très rarement. Je n'ai jamais eu de prof de sciences, physique, chimie. Les maths une fois pour travailler les statistiques sur 2 heures, voilà. Ils ne comprennent pas pourquoi ils feraient de l'EMI. C'est quand même extrêmement révélateur. Voilà, c'est ça qui ne va pas. C'est que si ces personnes, ces enseignants qui ont une formation scientifique ne restent enfermés dans les sciences sans comprendre que faire de l'EMI avec leur savoir, ce serait juste magique, voilà. Donc c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que voilà, on va planter une petite graine le 25 mars. On verra comment elle poussera. Une graine, on n'a jamais le résultat tout de suite. La semence ne se récolte que bien plus tard, à la saison qui suit. Donc l'idée, c'est que voilà, si on fait tous un peu ça, peut-être qu'on fera refleurir nos sols.
C'est ça qu'il faut, c'est ça qui est envisageable pour le futur.
Bien sûr. Faire pousser les énergies et les consciences.
Favoriser et justement créer la rencontre entre la sphère journalistique et de l'information, pas celle des contenus. On l'a vu.
Ouais, l'information, et puis développer l'esprit critique.
Développer l'esprit critique et donc la faire se rencontrer avec la sphère justement de la culture scientifique, de la médiation scientifique. Je voulais revenir sur ce que tu disais. Le contenu, je n'aime pas ce mot. Le contenu, du coup, il est simple, rapide et efficace à produire, mais il ne nous emmène pas loin. Il donne des réponses toutes faites, c'est ça ? Alors que le journalisme, l'information, ce que tu défends de... Ça coûte cher. C'est quelque chose qu'on entend souvent, en tout cas moi, pour avoir souvent été sur les assises du journalisme. Une des phrases que j'ai le plus entendues, c'est « l'information, ça coûte cher ». Il faut justement mettre les moyens pour la produire. Est-ce que c'est pour ça aussi peut-être que de plus en plus de médias se font racheter par des personnes très très riches et que...
Les médias se font racheter pour avoir de l'influence.
Ouais.
On est sur la manipulation de masse.
Ouais.
Voilà. Il n'y a aucun intérêt à investir dans les médias quand on sait que ce n'est pas les plus riches de la Terre. Je veux dire, quand on a des entreprises qui produit les plus grosses richesses du monde, un média qui perd de l'argent, ça n'a pas un gros intérêt, sauf si ce média est lu par la masse, par la population, et dont on peut se servir, en tout cas, pour faire passer une idéologie, pour faire passer... une idéologie, sa propre vision du monde. Voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est plutôt pour une question d'influence. C'est certainement pas pour une question économique. Donc ça, c'est déjà une partie. Ce que je n'aime pas dans le mot contenu, c'est sa sémantique, tout simplement, parce qu'au départ, d'ailleurs, on ne sait même plus où ça a commencé, c'est que c'est le vocabulaire des réseaux sociaux. Et... Si on ne fait pas attention à cette frontière entre notre propre vocabulaire, celui qu'on engage sur les réseaux sociaux, l'influenceur devient le journaliste devient l'influenceur, que devient l'information ? Elle se noie. Donc un contenu, un post, on peut faire du contenu journalistique, mais à la base, on produit de l'information. Voilà. Et en fait, c'est que, dans l'absolu, ce n'est pas très grave, mais si on laisse glisser comme ça les choses et qu'on... On perturbe les frontières entre chaque monde. À un moment donné, plus personne ne sait qui fait quoi ni comment. On perd la confiance des gens. Et puis ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Les sondages tous les ans sont assez dramatiques. Hein. 61% des Français n'ont pas confiance en les médias. Dès lors qu'une société est défiante à l'égard de ses médias, de ses institutions, de sa politique, on sombre dans le chaos social. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce glissement ?
On se questionne. On s'interroge, on réinterroge ses propres pratiques, on se met autour d'une table et on discute. Alors, je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, mais c'est peut-être un peu plus malin que s'envoyer un scud ou de tuer des gens innocents. Et on, on, invite aussi les scientifiques, les chercheurs, notamment les chercheurs en sciences de l'information et de la communication, qui se questionnent sur ces sujets-là, sur comment remettre un peu l'information au centre de tout ça, redonner du vrai, hein, puisqu'on parlait de vérité, expliquer. Nous aussi, journalistes, on a eu tendance à être très dans notre entre-soi. Ouvrons-nous aux citoyens. J'invite vraiment tout le monde à venir aux Assises. C'est quand même un événement grand public. Tout le monde peut y aller, aller rencontrer les journalistes, titiller-les, demander-leur, poser-leur des questions. On est des êtres humains, hein, on peut y répondre. Voilà. Et qu'on rétablisse un peu de dialogue entre les gens et qu'on redescende tous un peu au même niveau, c'est-à-dire sur Terre. Là, on a tous les pieds, si tout va bien.
Oui, alors c'est marrant parce que ça me fait penser à un événement que l'on porte à Centre Sciences, qui est la fête de la science. Et des échanges que j'ai des fois avec le grand public qui me dit les scientifiques, ils sont accessibles. On pensait en fait qu'ils avaient un tel niveau d'expertise qu'ils n'étaient pas accessibles pour nous. Moi, je pense la même chose des journalistes en fait. Non, mais que je connais moins, c'est ils seront pas accessibles en fait. Voilà. Donc on est dans le même registre. Je pense qu'il faut pas hésiter pour le grand public effectivement d'aller aux Assises nationales du journalisme. Et de pouvoir échanger, et ça nourrit quand même les journalistes, comme ça nourrit les scientifiques de parler et d'échanger en fait avec,
puis on a jamais
avec le grand public.
Personne, hein. C'est vrai.
non, mais je pense que ça c'est important. À la fois pour le grand public.
Après,
et à la fois pour le scientifique.
À notre corps défendant, il y a quand même eu cette génération, les scientifiques, c'était là, bien haut, dans des tours d'ivoire, les journalistes dans la leur. Certains sont encore comme ça. Hein. Voilà, l'être humain, il est comme il est. Hein. On le retrouve partout, dans tous les corpus. Hein. Donc, il y a des bons, il y a des moins bons. Il y a des gens plus humbles que d'autres. Mais voilà, on en est revenu quand même de tout ça. Sauf que ça reste un peu dans l'inconscient collectif, comme étant un peu comme les politiques. Ces gens qu'on ne peut pas approcher, pas toucher. On ne se sent jamais légitime d'aller leur parler. On ne détient aucune science infuse, ni les scientifiques. Ni les journalistes et encore moins les politiques. Donc, dès lors, on est un peu au même niveau les uns que les autres. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes compétences. Mais si on décide de les mutualiser plutôt que de les confronter, je pense qu'on grandit un peu plus.
Oui, et puis je pense qu'il y a quand même une réelle réflexion. Alors, je parle hein, pour les organismes de recherche et les universités qui essayent de sensibiliser les jeunes doctorants ou en tout cas les étudiants sur le partage de la connaissance scientifique auprès du grand public. On voit que c'est des sujets dont se sont emparées les universités et c'est très bien de former et de sensibiliser les jeunes à ces actions de culture scientifique, ce qui n'était pas le cas en fait il y a encore des années où effectivement le scientifique restait dans sa tour d'ivoire et c'était l'expert et il n'avait pas besoin de partager avec la société. Pourtant avec de l'argent public. Donc là, je pense que c'est à la fois un retour des choses sur l'investissement, mais c'est aussi une nécessité pour la société que d'échanger avec le grand public. Donc je pense que les journalistes, certainement, ont ces réflexions quand même d'échanger avec, de former les jeunes journalistes au fait d'échanger aussi avec le grand public sur leur métier.
Oui, et puis la jeune génération va balayer pas mal de choses. Mais ça, c'est normal, ce sont des cycles. Il était temps que l'élitisme tombe un peu de son piédestal, quel que soit le corps de métier. Mais on ne va pas se mentir, hein, y avait les sachants et il y avait le petit peuple. Bon, on va arrêter. Je ne suis pas scientifique, je n'ai pas Bac plus 15, mais j'ai d'autres compétences. Voilà. Donc si on se regardait un peu plus dans les yeux que par rapport à la hauteur qu'on peut faire, qu'elle soit intellectuelle ou réellement physique, voilà, on est avant tout des êtres humains. Donc ce serait bien qu'on se rétablisse un peu à ce niveau-là et qu'on sorte de ce monde élitiste, parce que c'est ça un peu d'entre-soi où on croit détenir une vérité. Alors qu'elle n'existe pas. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera probablement plus demain. La vérité n'est vraie et n'est construite qu'à un instant T. À partir d'une réalité, quel filtre on porte pour pouvoir dire que c'est vrai. Donc avançons tranquillement. Quoi.
Je vous propose de continuer en musique avant de se retrouver une toute dernière fois, avant de clôturer l'émission avec un titre de Pierre Bastien et Michel Banabila, Not in Our Name, sur Radio Campus dans La Science Infuse. suite et fin de la Science Infuse de Radio Campus Orléans. On est encore ensemble pendant 8 minutes avec Élodie Cerquera du Club de la Presse et Béatrice Saulnier de Centre Sciences. Je le rappelle, elle vous donne rendez-vous à vous, chers auditeurs et auditrices, à Centre Sciences au 57 Quai du Roi à Orléans le 25 mars prochain dès 18h30 pour une rencontre Science et Médias. Où est-ce qu'on retrouve l'information plus en détail ?
Alors sur le site de Centre Sciences, c'est dès 18h15 au 57 Quai du Roi. Et sinon, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site de Centre Sciences.
Voilà. Et sur les réseaux sociaux du club, que bien sûr tout le monde suit avec une assiduité incroyable. Donc sur LinkedIn et Facebook, on communique beaucoup. Des mails seront envoyés aussi. On a essayé d'envoyer un mail à un maximum de gens. N'hésitez pas à venir accompagner. C'est pas parce que vous avez reçu un mail que vous ne pouvez pas venir accompagner, au contraire, même les enfants peuvent venir. Enfin, voilà, c'est vraiment tout public. Hein. C'est une fois de plus, on sort des tours d'ivoire élitistes. C'est pour tout le monde. Donc ça, c'est sûr, on vous accueillera avec plaisir. Peut-être rappeler les dates des Assises du journalisme qui se déroulent au Palais des Congrès Vinci, en face de la gare de Tours. Cette année, elles sont décalées du fait des élections municipales. Donc elles se tiendront les 7, 8 et 9 avril. Et le 9, 10, 11 avril, il y aura le Salon du Livre, samedi. Mais sinon, les trois jours, il y a aussi une soirée exceptionnelle le 10 avril avec une projection. Donc voilà, pour ceux qui veulent y rester la semaine. Mais sinon, les trois jours complets. Et on attend 1500 élèves. Je crois qu'on va vraiment exploser la jauge cette année et battre tous les records. Ah et oui. Ça, c'est chouette.
Est-ce qu'en fait, on peut rappeler, parce que moi, j'ai découvert les Assises il n'y a pas très longtemps en pensant que c'était que pour des professionnels, de rappeler en fait un peu l'objectif. Est-ce qu'on y trouve, en tout cas pour du grand public, quel type d'événement on peut y
Alors,
trouver ?
Alors, effectivement, déjà, on y trouve plein de gens, comme le Club de la Presse, qui a son stand, qu'on retrouvera aussi Radio Campus avec son plateau, d'autres radios, beaucoup de partenaires locaux aussi, mais pas que, et surtout des ateliers auxquels vous pouvez participer, des tables rondes. Vous avez tout le programme sur le site Assises du journalisme.
Journalisme.com. Ils ont quand même un sacré nom de domaine, ils ont eu de la chance. Journalisme.com, ils l'ont eu.
Et derrière, en fait, c'est porté par l'association Journalisme et Citoyenneté, c'est pour ceux qui galéreraient un peu à le trouver. En tout cas, le programme est en ligne, donc effectivement, on peut participer à des ateliers, participer à des tables rondes. Il y a la Grande Agora qui est là, table ronde, je crois, le jeudi. La première journée est dédiée à l'éducation média et à l'information avec le prix de l'EMI sur toutes les initiatives par catégorie en région Centre-Val de Loire. Et partout, dont la région Centre-Val de Loire, pardon. Ensuite, il y a le prix de l'enquête, le prix du livre aussi. Voilà, il y a toute une actualité. Donc, ce sera Camille Langlade de BFM TV qui sera le jury du prix UMI et Fabrice Arfi, jury du prix Média. Et donc, c'est l'occasion de croiser beaucoup de journalistes, plus ou moins connus, qui sont plutôt accessibles ce jour-là. Donc voilà, justement, si on a des questions à leur poser, c'est plutôt chouette de faire des rencontres et pour les professionnels de faire du réseau aussi.
Et c'est tous les médias, enfin je veux dire les médias, tous les supports, médias en ligne, médias TV.
À tous les journalistes.
Ouais.
Okay. Voilà. Après, peu importe le canal, on est journaliste, donc oui. Et puis pas que. Hein, là, c'est les Assises du journalisme pour s'interroger sur l'information et donc justement cette enquête de vérité, quelle est-elle, et s'interroger sur ces sujets-là. Il y aura bien sûr abordé l'IA et plein d'autres sujets. Mais après, dès lors que c'est ouvert au grand public, on va tous se mêler les uns aux autres.
Est-ce qu'il y a d'autres actualités à venir du Club de la Presse et de Centre Sciences que vous aimeriez partager rapidement avec nous ?
Alors, on a un événement la semaine prochaine à Blois. On invitera le service communication du département. Pour l'instant, la programmation post-assise n'est pas encore faite.
Ouais.
Pas encore dévoilé plutôt. On ne va pas tout dire. Parce que si on dit tout en même temps, s'il y a quand même une journée, on va en informer tout le monde après, le 6 mai, autour de la désinformation des ingérences étrangères qui aura lieu à Bourges au magnifique lycée Jacques Coeur. Donc pour ceux que ça intéresse, pareil, ça circule pas mal sur les réseaux sociaux et c'est notamment initié par le Clémy. Donc voilà, pour les gens qui connaissent. Mais le club communiquera prochainement. Le problème, c'est que comme on a beaucoup d'événements, si on communique tout d'un coup, les gens vont être perdus. Donc on y va pas à pas, comme ça rentre dans les agendas tranquillement.
Et sur le site de Centre Sens, je vous invite à retrouver la programmation culturelle jusqu'en juillet. Il y a à la fois des rencontres sciences citoyennes. Alors, on va parler, par exemple, au MOB demain soir, de l'actualité sismique sous les mers à Mayotte. Et puis, au mois de mars, à Tours, on va parler de l'épigénétique. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter les rencontres sciences citoyennes qui ont lieu sur l'ensemble du territoire. Et puis la présentation de certaines expositions qui circulent en région et des événements en préparation, comme la fête de la science qui aura lieu au mois d'octobre, du 2 au 12 octobre, qui est actuellement en préparation. Mais voilà, il y a un certain nombre d'événements, n'hésitez pas à consulter sur le site de Centre Sciences.
Voilà, et nous, les Radio Campus, bien évidemment, Radio Campus Orléans sera présent sur les assises du journalisme de Tours. Radio Campus France et Radio Campus Tours vont nous accueillir autour d'un plateau, de deux plateaux même, un plateau dédié à l'éducation aux médias et à l'information sur lequel on va recevoir plein de classes de scolaires qui auront l'occasion de s'initier à la radio et découvrir le média radiophonique, et un deuxième plateau qui lui produira deux émissions spéciales. Ça sera à retrouver sur deux jours, ça sera le mercredi et le jeudi. Ça sera multidiffusé sur toutes les radios campus de France, dont Radio Campus Orléans. Donc, chères auditrices et auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans, auditrices et auditeurs aussi dans ce sens-là, hein, bien évidemment, vous aurez l'occasion du coup d'écouter tous ces programmes, et rendez-vous sur radiocampus.fr, le site internet de Radio Campus France, pour découvrir les programmes qui avaient été réalisés sur les années précédentes. Un tout dernier mot avant de nous quitter.
Vive la science et vive l'info.
Oui, puis moi je voudrais, c'est une première qu'on l'on organise entre Centre Sciences et le Club de la Presse. J'espère que ce ne sera pas la dernière et qu'on aura d'autres collaborations.
C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et merci pour l'invitation, Erwan.
Merci.
Merci à vous. C'était La Science Infuse. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, à la réécoute, à la demande, de manière infinie sur orleans.radiocampus.org. Quant à nous, on se quitte sur quelques notes de J.W. Francis, You're Changing, dans quelques instants, Le Moulin à Parole. Bel après-midi à vous et à très vite sur Radio Campus Orléans.
Huit et deux, trois, huit et...